Chapitre 16. La nuit t'attend toujours. Commence à croire que la nuit t'attend toujours. René Char. 1. Dans la nuit orageuse, les rues d'Antibes semblaient éclaboussées d'un enduit épais et visqueux qu'un peintre malhabile aurait renversé sur sa toile. Il était 4 heures du matin. Je déambulais de long en large sous la pluie, devant le commissariat de police de l'avenue des Frères Olivier. J'avais enfilé mon imperméable, mais mes cheveux étaient trempés et de l'eau s'infiltrait dans le col de ma chemise. Mon téléphone portable vissé à l'oreille, j'essayais de convaincre un ténor du barreau niçois de bien vouloir assister mon père si sa garde à vue devait se prolonger. J'avais l'impression d'étouffer sous la cascade de catastrophes qui s'enchaînaient. Une heure plus tôt, lorsque j'avais quitté Aurelia Park, je m'étais fait arrêter par les gendarmes pour excès de vitesse. Sous le coup de l'émotion, j'avais propulsé le roadster à plus de 180 km/h sur l'autoroute. On m'avait fait souffler dans l'éthylomètre et j'avais payé mes cocktails et mes shots de vodka par une suspension immédiate de permis. Pour pouvoir repartir, je n'avais eu d'autre choix que d'appeler Stéphane Pianelli à la rescousse. Le journaliste était déjà au courant de la mort de ma mère et m'avait assuré qu'il arrivait sans tarder. Il était venu me chercher avec son SUV Dacia, à l'arrière duquel le petit Ernesto dormait à poing fermé. La voiture sentait le pain d'épices et n'avait jamais dû croiser d'éléphant bleu. En roulant vers le commissariat, c'est lui qui m'avait briefé, complétant les informations que m'avait transmises le divisionnaire de Bruyne. Le corps de ma mère avait été retrouvé au cap d'Antibes, sur les rochers du sentier du littoral. C'était la police municipale, appelée sur les lieux par des résidents inquiets d'avoir entendu un coup de feu, qui, la première, avait constaté sa mort. « Je suis désolé de t'apprendre ça, Thomas, mais les circonstances dans lesquelles on l'a tué sont vraiment effroyables. On n'a jamais vu ça à Antibes. » Le plafonnier de la Dacia était resté allumé. Pianelli tremblait. Il était livide, très atteint par l'horreur qui faisait irruption dans sa sphère de relations. Après tout, lui aussi connaissait bien mes parents. Moi, j'étais anesthésié, au-delà de la fatigue, du chagrin, de la douleur. Il y avait un fusil de chasse à proximité de la scène de crime. Mais Annabelle n'est pas morte d'une blessure par balle, avait-il déclaré. Il avait eu du mal à me raconter la suite, et j'avais dû insister pour qu'il me lâche la vérité. Et c'était elle que j'étais maintenant en train d'essayer d'expliquer au Dupont-Moretti local, alors que je venais de quitter le commissariat. Le visage de ma mère avait été réduit en bouillie par une avalanche de coups de crosse. Bien évidemment, ce n'était pas mon père qui avait fait ça. Richard s'était rendu à cet endroit parce que je le lui avais indiqué, et Annabelle était déjà morte lorsqu'il était arrivé. Il s'était écroulé en larmes sur les rochers et son seul tort avait été de regarder le cadavre de sa femme en sanglotant. C'est moi qui ai fait ça. Cette affirmation, expliquai-je à l'avocat, n'était bien sûr pas à prendre au premier degré. Il était manifeste qu'elle signifiait davantage un regret de ne pas avoir été capable d'éviter ce meurtre qu'un aveu de culpabilité. L'homme de loi en convint sans difficulté et m'assura qu'il allait nous aider. Lorsque je raccrochais, il pleuvait toujours autant. Je me réfugiais sous un abribus désert de la place du Général de Gaulle, d'où je passais deux coups de fil pénibles à Port-au-Prince, puis à Paris, pour prévenir mon frère et ma sœur de la mort de notre mère. Jérôme, fidèle à lui-même, resta digne, quoique profondément atteint. La conversation avec ma sœur fut surréaliste. Alors que je pensais qu'elle dormait chez elle dans le 17e arrondissement, elle était en week-end avec son mec à Stockholm. Je ne savais même pas qu'elle avait divorcé l'année précédente. Elle m'apprit sa séparation, puis, en restant vague sur les circonstances, je lui fis part du drame qui venait de frapper notre famille. Elle partit dans une crise de larmes que je fus incapable de calmer. Pas plus que n'y parvint le type qui dormait à ses côtés. Puis je restai un long moment sous l'orage, aéré comme une ombre au milieu de la place. L'esplanade était inondée. Une canalisation avait dû se rompre, emportant une partie du bitume. Les fontaines encore éclairées projetaient dans la nuit de longs jets d'eau dorée qui se mêlaient à la pluie pour former une sorte de brouillard planant. Trempé, enveloppé par la bruine, j'avais le cœur carbonisé, les neurones grillés, le corps laminé. La brume vaporeuse qui noyait mes pas effaçait les limites de la place, les bordures des trottoirs, les marquages au sol. Et j'avais l'impression qu'elle noyait aussi toutes mes valeurs et mes points de repère. Je ne savais plus vraiment quel avait été mon rôle dans une histoire qui m'abîmait depuis tant d'années. Une chute qui semblait ne pas avoir de fin. Un scénario de film noir que j'avais davantage subi que je n'en avais été l'instigateur. 2. Soudain, deux phares trouèrent le brouillard et avancèrent dans ma direction. La Dacia joufflue de Stéphane Pianelli était de retour.
« Monte, Thomas, » me dit-il après avoir baissé sa vitre. « J'ai bien pensé que tu ne saurais pas comment rentrer. Je vais te ramener chez toi. »
À bout de force, j'acceptai sa proposition. Le siège passager était toujours encombré par un vrai foutoir. Comme à l'aller, je m'installai sur la banquette arrière, à côté d'Ernesto, endormi. Pianelli m'expliqua qu'il revenait de l'agence de Nice ce matin. Le journal ayant bouclé plus tôt dans la soirée, il n'y aurait pas de papier sur la mort de ma mère dans la première édition du lendemain. Le journaliste était néanmoins repassé par son bureau pour écrire un article destiné au site internet du quotidien.
« Les faibles soupçons qui pèsent sur ton père ne seront même pas évoqués, » m'assura-t-il.
Alors que nous longions le bord de mer en direction de la fontaine, Pianelli me confia enfin qu'il était tombé sur Fanny en quittant l'hôpital où il était allé chercher des infos sur Maxime, plus tôt dans la soirée. Elle était à bout de nerfs. Jamais je ne l'avais vue comme ça. Un signal d'alarme retentit dans mon esprit fatigué. « Qu'est-ce qu'elle t'a raconté ?» Nous étions arrêtés au croisement de la Siesta, le feu rouge le plus long du monde.
« Elle m'a tout raconté, Thomas. Elle m'a dit qu'elle avait tué Vinca et que ta mère et Francis l'avaient aidé à couvrir ses actes. »
Je comprenais mieux le trouble de Pianelli tout à l'heure. Il n'était pas seulement impressionné par les circonstances de la mort de ma mère. Il l'était d'avoir découvert une histoire d'assassinat. Elle t'a dit ce qui était arrivé à Clément ?
Non,
avoua-t-il.
C'est la seule pièce du puzzle qui me manque.
Le feu passa au vert. La Dacia rejoignit la Nationale et remonta vers la Constance. J'étais complètement défait. Je n'avais plus l'esprit clair. J'avais l'impression que cette journée ne finirait jamais. Qu'une vague allait tout emporter. Trop de révélations, trop de drames, trop de morts, trop de menaces qui planaient encore sur ceux qui m'étaient chers. Alors, j'ai fait ce qu'il ne faut jamais faire. J'ai baissé la garde. J'ai transgressé 25 ans de silence parce que j'avais envie de croire en l'être humain. J'avais envie de croire que Pianelli était un mec bien, qui ferait passer notre amitié avant sa fonction de journaliste. J'ai tout mis sur la table. Le meurtre de Clément et tout ce que j'avais appris aujourd'hui. Une fois arrivé devant la maison de mes parents, Pianelli s'est garé face au portail et a laissé le moteur tourner. Nous sommes restés encore une demi-heure à discuter dans l'habitacle du vieux SUV pour essayer d'y voir plus clair. Patiemment, il m'a aidé à reconstituer ce qui s'était passé plus tôt dans l'après-midi. Ma mère avait dû laisser traîner une oreille lorsque je discutais avec Maxime. Comme moi, elle avait sans doute noté les différences d'écriture entre la dédicace du livre et les appréciations scolaires rédigées par Alexis Clément. Contrairement à moi, ce détail lui avait permis d'identifier l'assassin de Francis. Elle lui avait donné rendez-vous ou l'avait traqué jusqu'au Cap d'Antibes dans le but de l'éliminer. Bref, elle avait Elle avait réussi, là où nous avions échoué. Démasquer un monstre dont la fureur assassine semblait sans limite. Une clairvoyance qui lui avait coûté la vie. Essaie de te reposer, me dit Stéphane en me donnant une accolade. Je t'appelle demain. On ira ensemble à l'hôpital prendre des nouvelles de Maxime. Malgré la rare chaleur de ses propos, je n'eus pas la force de lui répondre et claquai la porte de la voiture. Comme je n'avais pas de bip, je fus obligé d'escalader le portail. Je me souvenais qu'on pouvait accéder à la maison par la partie garage du sous-sol que mes parents ne verrouillaient jamais. Une fois à l'intérieur du salon, je ne pris même pas la peine d'allumer la lumière. Je posai mon sac sur la table, ainsi que le calibre de Francis. J'enlevai mes vêtements trempés et je traversai le salon comme un somnambule avant de m'écrouler sur le canapé. Là, je me pelotonnai dans un plaid de laine et je laissai le sommeil m'emporter. J'avais joué et perdu sur tous les tableaux. L'adversité m'avait broyé. Sans que j'y sois préparé, je venais de vivre la pire journée de ma vie. Ce matin, en débarquant sur la Côte d'Azur, j'avais bien conscience qu'un séisme menaçait. Mais je n'en avais anticipé ni la puissance, ni le caractère cruel et dévastateur.